France Inter.fr. La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et aujourd'hui, à la une de la science, direction la jungle amazonienne et les jardins du diable.
Le premier est un arbre. La deuxième est la fourmi amie de l'arbre. L'arbre vit mal sans sa fourmi. La fourmi, quant à elle, est incapable de vivre sans l'arbre.
Et c'est l'histoire que nous allons vous raconter en plein cœur de l'Équateur. Une drôle de coopération entre des fourmis et une espèce d'arbre qui les accueille, qui favorise la croissance des jeunes pousses ainsi que leur implantation. Et pour en parler, nous sommes en direct de l'Équateur avec vous, Olivier Dangle. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRD et en studio avec moi, sans décalage, Hervé Kempf pour Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Étude publiée, Hervé, il y a quelques jours à peine.
Tout à fait, dans The American Naturalist, une revue scientifique de biologie et d'écologie. Alors, pour bien comprendre son importance, il faut se rappeler que le mécanisme dominant dans l'évolution, nous dit-on, et c'est tout à fait attesté, avéré depuis Darwin, c'est la compétition entre les espèces et entre les individus au sein des espèces. Mais ça n'est quand même pas un mécanisme exclusif, et il y a aussi d'autres mécanismes aussi importants dans la nature, c'est les mécanismes d'association. Alors souvent c'est au sein d'une espèce, on parle alors de coopération, et puis ça peut être entre deux espèces dans lesquelles les organismes impliqués tirent tous les deux profit de leur relation, on parle alors de mutualisme. Et un cas très intéressant de ce mutualisme associe dans la forêt tropicale d'Amazonie, en Équateur, une espèce de fourmi, alors j'espère bien prononcer, monsieur Dangle nous le dira, la Myrmecolachista schumanni, et puis une espèce d'arbuste, Duroya hirsuta. Et c'est donc cette étude très importante à laquelle a participé Olivier Dangle.
Olivier Dangle, est-ce que d'abord les noms ont bien été prononcés par Hervé ?
C'est très bien, j'ai trouvé l'exercice très bien réussi.
Bravo. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire d'abord l'endroit où cette étude a été menée en Équateur ?
Oui, alors effectivement, ça vaut le coup de se plonger un petit peu dans cette jungle amazonienne. Je me trouve actuellement à Quito, il est 7h15 du matin. La forêt amazonienne se trouve à 200 km d'ici à vol d'oiseau. Mais alors que moi je me trouve à 2800 mètres d'altitude, on va descendre cette fois-ci à environ 200 mètres d'altitude et on va trouver effectivement un parc national qu'on appelle Yasuni qui s'étend sur environ 10 000 km², c'est une réserve de la biosphère et donc on a toutes les caractéristiques d'une forêt humide, très pluvieuse et en même temps avec une température qui permet le développement d'un grand nombre d'organismes.
Alors là donc c'est une belle histoire de coopération, c'est ça, entre une fourmi et une espèce d'arbre.
Voilà, c'est ce qu'on appelle du mutualisme effectivement, où les deux espèces trouvent un avantage à collaborer entre elles. On a d'un côté l'arbre qui donne à la fourmi un habitat et aussi certains petits insectes qu'on appelle des cochenilles qui vivent dans cet arbre et qui donnent du miel aux fourmis. Et en échange, on a la fourmi qui va tuer en fait les compétiteurs de cet arbre en injectant de l'acide formique et qui va permettre à l'arbre de pousser plus vite.
Et alors, est-ce qu'on peut mesurer, évaluer le profit, le bénéfice que tire chacune de ces espèces ?
Voilà, donc c'était tout le challenge un petit peu de l'étude. On a commencé par essayer de comprendre quel était l'avantage de cette relation pour l'arbre. Et pour ça, en fait, on a eu la chance de travailler dans une forêt qui fait l'objet d'un suivi depuis une vingtaine d'années. Donc, il faut comprendre que sur cette parcelle, il y a environ 300 000 plants d'arbres qui sont suivis, qui sont numérotés, il y a une petite fiche. Et grâce à l'incroyable base de données qu'ont réuni nos collègues équatoriens de l'Université catholique, on a pu effectivement mesurer la croissance de ces arbres quand un arbre était dans un jardin du diable ou quand il était à l'extérieur. Et on a donc trouvé qu'à l'intérieur, il poussait deux fois plus vite qu'à l'extérieur. Par contre, pour la fourmi, on a encore des études à faire pour bien comprendre quels sont les mécanismes qui font qu'elle va pouvoir se développer plus mieux.
Olivier Dangle, on parle donc de mutualisme dans ce cas précis, parce qu'on évoque aussi la symbiose de temps en temps entre deux espèces différentes. Qu'est-ce qui les distingue au fond ?
Alors en fait, le mutualisme, c'est un petit peu comme un mariage entre deux espèces, et ce mariage a des degrés différents en fait. Certains sont complètement obligatoires, c'est ce qu'on appelle donc la symbiose, c'est quand on a deux organismes qui sont en mutualisme obligatoire, et d'un autre côté, on a des mutualismes qui ne sont pas obligatoires. C'est le cas, par exemple, de cet arbre et de cette fourmi. On peut trouver l'arbre sans la fourmi, et la fourmi peut vivre sur d'autres espèces d'arbres. Mais quand ils se retrouvent ensemble, ils forment un mutualisme qui permet aux deux espèces d'avoir des avantages.
Alors, on a documenté de fréquentes associations d'espèces de fourmis et d'espèces d'arbres. Qu'est-ce que celle-ci, que vous avez étudiée, a de particulier ?
Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on appelle les myrmécophytes, hein. Ce sont les plantes donc sur lesquelles on trouve les fourmis. Il y a plus de 100 genres dans le monde et elles ont en fait des manières différentes de se voir dans la nature. Et en fait, celle-ci est un petit peu particulière parce qu'effectivement, la fourmi ne va pas seulement défendre l'arbre contre les herbivores, comme c'est souvent le cas dans beaucoup de partenaires, mais elle va aussi créer ses jardins Donc elle va en fait nettoyer un petit peu aux alentours de l'arbre pour créer dans la forêt amazonienne, alors qu'on trouve souvent, on a du mal à trouver d'une fois à l'autre là, une même espèce d'arbre. Il faut, voir que sur 25 hectares, on va trouver jusqu'à 900 espèces d'arbres différentes. Donc en fait, quand on se balade dans la forêt, on trouve toujours des espèces d'arbres différentes. Et là, dans ce cas-là, on peut arriver à un moment donné dans la forêt sur des sortes de grandes clairières ouvertes, où il y a en fait une monoculture d'arbres, où on trouve que cette même espèce de Doria. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement exceptionnel dans les relations entre plantes et fourmis.
Et donc ça, on le doit à cette fourmi, Olivier Dangle, qui du coup utilise son acide formique, c'est ça, pour faire le ménage et ne protéger que son arbre chéri.
Voilà, donc l'homme n'a rien inventé quand il utilise ses pesticides pour enlever les mauvaises herbes dans ses cultures. La fourmi fait la même chose. Ça a été démontré effectivement il y a quelques années que les fourmis injectent de l'acide formique. Alors quand on se balade dans la forêt et quand on regarde les jeunes plants d'autres espèces d'arbres qui ne sont pas des Doria, on voit effectivement des nécroses à la surface des feuilles. Et c'est en fait l'effet de l'acide formique qui est injecté par la fourmi dans les feuilles, ce qui est aussi tout à fait remarquable.
Étonnant, oui.
Est-ce que ce mécanisme que vous décrivez, est-ce qu'il est exceptionnel, comme vous l'avez dit, ou est-ce que c'est un mécanisme majeur dans la biodiversité de la forêt tropicale?
Alors effectivement, vous l'avez souligné justement, depuis Darwin, on a centré un petit peu les études en écologie évolutive sur la compétition comme moteur de la biodiversité. Et depuis, on va dire, ces 20 dernières années, on trouve de plus en plus d'études qui montrent que les interactions positives, notamment le mutualisme, sont également très importantes pour le maintien de la biodiversité. Et notamment dans ces forêts tropicales où je vous ai indiqué qu'il y a vraiment une grande diversité d'arbres sur une surface restreinte, les interactions positives comme celle-ci permettent aussi de créer des patchs dans la forêt qui sont un peu différents, qui ont des fonctionnements un petit peu différents avec de la dominance de certains arbres, et ainsi d'avoir une dynamique extrêmement intéressante et très productive en termes de biodiversité.
Olivier Dangle, est-ce que l'arbre bénéficie justement de cette action de la fourmi tout au long de sa vie, ou plutôt justement au début de sa croissance?
Alors c'est une bonne question, effectivement. Quand on parle de mutualisme, en fait, je vous ai dit qu'il y avait des degrés divers de mutualisme d'une espèce à l'autre, mais il y a aussi des degrés divers des effets de ce mutualisme en fonction de ce qu'on appelle l'ontogénie, c'est-à-dire le cycle de vie des partenaires qui sont impliqués. Souvent, on a décrit ce mutualisme comme étant bénéfique plutôt à la fin de la vie de l'arbre, mais dans notre cas, on a effectivement trouvé que ce sont plutôt les jeunes plants qui sont favorisés par l'action de la fourmi. On pense, parce que principalement, là, il faut voir que quand on rentre dans une forêt tropicale, c'est très sombre. On a une canopée qui est très importante, il y a peu de lumière qui arrive au niveau du sol. Et les fourmis, en nettoyant un petit peu les plus gros arbres qu'il pourrait y avoir autour des plants de Doria, permet à ces jeunes plants de croître meilleur en ayant accès à la lumière.
Hervé Kempf, on termine avec un mot d'actualité environnementale qui concerne justement l'Équateur où se trouve en ce moment Olivier Dangle.
Oui, puisque votre terrain d'étude, Olivier Dangle, c'était dans le parc Yasuni, et c'est une réserve qui est célèbre parce que il était question de ne pas y exploiter le pétrole afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais les pays du Nord n'ont pas joué le jeu et le gouvernement de l'Équateur a décidé de commencer l'exploitation de ce pétrole. Quel effet cela peut avoir sur votre travail et quel effet cela peut avoir sur la biodiversité extraordinaire de ce parc Yasuni?
Oui, alors effectivement, je le répétais tout à l'heure, c'est important d'avoir des observatoires du milieu naturel, comme c'est le cas avec cette station scientifique que l'on a à Yasuni. Et ces observatoires nous permettent de comprendre les changements qu'il peut y avoir dans l'environnement, parce que la plupart du temps, le problème qu'on a en milieu tropical, c'est qu'on n'a justement pas de données et on ne peut pas décrire ces changements. Donc, les principaux impacts qu'ont l'activité pétrolière dans la forêt, c'est le fait de créer des routes pour accéder aux puits. Ces routes, ensuite, sont colonisées par les êtres humains qui vont un petit peu défricher, commencer à habiter, chasser. Et donc, on a déjà décrit dans le parc Yasuni, puisqu'il y a beaucoup de compagnies pétrolières qui ont leurs exploitations, des effets néfastes sur la biodiversité, sur les grands mammifères, et aussi peut-être sur les interactions qu'il peut y avoir entre, et souvent méconnues, entre des fourmis, d'autres insectes et des plantes.
Merci en tout cas Olivier Dangle pour vos précisions sur cette publication donc qui vient de paraître. Vous êtes chercheur à l'IRD, donc en direct de Quito en Équateur. Merci beaucoup à vous. Et puis Hervé, on retrouve cette histoire de fourmis et d'arbres sur le site de reporter.net. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des traces de pollution retrouvées dans le cerveau. C'est le résultat d'une étude menée par l'université de Lancaster au Royaume-Uni qui a montré que des nanoparticules de pollution étaient présentes dans le cerveau humain. Étude menée sur des personnes âgées de 3 à 92 ans vivant dans des villes très polluées comme Mexico ou Manchester, et qui a donc montré que des particules d'oxyde de fer étaient présentes dans le cerveau. Les chercheurs se demandent s'il pourrait y avoir un lien avec les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Un diplôme pour défendre le droit des animaux, c'est la nouvelle idée de l'université de Brive. Depuis le 5 septembre, 29 étudiants suivent le premier diplôme universitaire en droit animalier, 54 heures au total pour faire avancer la protection des animaux. L'université société française reste quand même très en retard par rapport aux États-Unis qui enseignent le droit animalier depuis une vingtaine d'années. Et puis enfin, un astéroïde rebaptisé Freddie Mercury à l'occasion de son 70e anniversaire le 5 septembre dernier. L'Union Astronomique Internationale a décidé de renommer l'astéroïde 1991 FM3 en Freddie Mercury. Il rejoint ainsi la longue liste de chanteurs ayant déjà un astéroïde à leur nom comme David Bowie ou Frank Sinatra.